Radio Foot International.
Christophe Jousset.
Bonjour à tous et bienvenue dans Radio Foot. C'est vendredi, c'est le Café des Sports avec un invité aujourd'hui dans notre studio. Un homme qui a un point commun avec Zinedine Zidane puisque sa carrière s'est arrêtée sur un geste interdit. Bonjour Tony Chaperon.
Bonjour.
Zidane, c'était un coup de boule. Vous, c'était un tacle sur un joueur nantais en janvier dernier lors d'un match de Ligue 1. Le problème, c'est que vous étiez arbitre et que les images de ce réflexe que vous avez eu ont fait le tour du monde et qu'elles vous ont valu un déluge de critiques. Alors cet épisode, vous en parlez bien sûr dans le livre que j'ai sous la main, que vous publiez aux éditions Artaud, qui s'appelle « Enfin libre », c'est le titre. Et dans ce livre, vous parlez de bien d'autres choses dont nous allons parler aussi, vos rapports avec les joueurs, vos rapports avec votre hiérarchie tout au long de votre carrière, des rapports parfois houleux, la place de l'arbitre dans le foot français. Soyez le bienvenu dans Radio Foot, vous pouvez intervenir à tous les sujets. Hein.
Merci.
Je vous présente ceux qui sont avec nous dans ce Café des Sports. Nous avons eh bien en face de vous qui jette un dernier coup d'œil à son téléphone portable, Rémi Ngono. Bonjour Rémi.
Bonjour et bonjour surtout à toutes les auditrices, les charmantes auditrices de RFI en Afrique qui m'ont demandé un mariage et je vais vous épouser, vous toutes, j'ai accepté.
Marc Libra, bonjour.
Bonjour, j'embrasse toutes les Marseillaises de France qui m'ont jamais demandé voilà, un mariage, mais je suis disponible.
Xavier Barré, bonjour, une dédicace peut-être.
Salut à tous. Non,
c'est pour Lucie de Molino. Toutes les femmes d'ici de Molino.
Boulogne-Billancourt plutôt, mais ça se touche.
Et Alejandro Valente, bonjour Alejandro.
Écoutez, moi je vais saluer les supportrices des River Plate.
Au sommaire du Café des Sports, la Ligue des Nations et cette belle victoire de la Croatie sur l'Espagne, 3-2, dans une grosse ambiance au stade Maximir, les vice-champions du monde toujours en course pour la finale à 4 du mois de juin. Et puis l'arbitrage vidéo, on y revient à l'arbitrage vidéo qui gagne encore du terrain. La Première Ligue va l'utiliser la saison prochaine. Radio Foot préparé avec David Finzel, Pierre Guérin, Laurent Salerno. Nous sommes ensemble pour 45 minutes plus le temps additionnel. Tony Chaperon, vous avez 46 ans et vous êtes un jeune retraité de l'arbitrage. Des matchs, vous en avez arbitré beaucoup, 1500 sur l'ensemble de votre carrière à peu près, et un quart à peu près hein, sur l'élite, la Ligue 1, c'est ça ?
Un tiers, on dirait.
Voilà.
Entre la Ligue 1 et puis les matchs internationaux aussi.
Voilà. Ça fait 14 saisons en Ligue 1 en tout. Mm-hmm. Et dans ce livre donc que vous publiez, qui s'appelle Enfin libre, vous comparez votre carrière à un château de cartes. Un château de cartes qui, écrivez-vous, s'est écroulé le 14 janvier dernier. Alors ce jour-là, vous arbitrez Nantes PSG. Kylian Mbappé part en contre. Vous le poursuivez, l'œil rivé sur le ballon, puisque c'est votre ligne de conduite de toujours. Votre trajectoire croise celle de Diego Carlos, le joueur nantais. Vous tombez et en vous relevant, vous faites un croche-pied à Diego Carlos avant de sortir un avertissement pour ce joueur. Et comme c'est son deuxième jaune, eh bien ça fait expulsion. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? C'est la question que tout le monde s'est posée ce jour-là, en voyant les images, et c'est la question qu'on vous pose aujourd'hui.
Ben, il s'est pas passé grand-chose, parce que si j'avais réfléchi, je pense que je n'aurais pas fait ce geste. J'ai juste eu un réflexe à la fois mêlé de surprise, de colère, de peur, et puis de douleur, parce que quand il me pousse, quand je tombe, j'ai mal, et j'ai un réflexe idiot, parce que je tends ma jambe quelque part pour l'interpeller en lui disant mais fais attention, je suis là, et j'oublie à ce moment-là que je suis arbitre de foot. Je suis un individu lambda qui à la fois est un peu joueur, parce que je pense que si j'avais été joueur j'aurais eu la même réaction, et puis peut-être que tout un chacun dans la situation présente, si on le bouscule dans la rue sans qu'il ait pu anticiper cette bousculade, je pense que tout un chacun peut réagir de la même façon. Donc c'est un réflexe, c'est instinctif, et évidemment pas réfléchi du tout. Sinon, quand on prend le temps de la réflexion, sinon on fait pas ça. Mm-hmm. Donc c'est voilà.
Mais la deuxième lame de la surprise, si j'ose dire, c'est quand vous sortez le carton jaune.
Ouais, c'est preuve que je réfléchis pas beaucoup. Hein. Donc non, mais je suis pas très lucide à ce moment-là, parce que je suis je suis meurtri, j'ai mal. D'ailleurs, mon assistant me dit, mais ça va. J'ai dit, wow, il m'a défoncé, en fait. Et j'ai cette sensation de douleur. Et surtout, je suis persuadé à ce moment-là qu'il l'a fait exprès de me pousser. Et donc, automatiquement, je reprends... D'ailleurs, il y a un petit temps de latence avant que je siffle et que je reprenne un peu mes esprits. Et je lui mets un carton jaune. Et le comble, c'est quand même ses coéquipiers qui me disent, mais il a déjà eu un jaune.
Et là, c'est là que vous réalisez.
Là, j'ai dit, mais merde, je suis obligé de mettre un rouge. Et non, bon, bah, bref.
Donc, Tony, vous pensez tout de suite à ça quand vous lui remettez le deuxième jeu? Parce que moi, en plus, qui ai le cœur jaune et vert depuis mon plus jeune âge, j'étais devant ma télé, j'étais fou furieux. Fou furieux parce qu'en plus, Nantes avait fait un très bon match et aurait mérité au moins le nul contre le PSG, ce qui était une sacrée performance. Et à l'arrivée, ils finissent à 10. Et donc, ils perdent ce match. Et donc, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment, quand vous faisiez allusion, Tony, que vous aviez votre assistant, il vous a pas dit, mais attends, il a pas fait exprès?
Non. Mais lui, il a pas vu, en fait. Aucun des autres acteurs n'a vu ce qui s'est passé. Il y a que les caméras qui l'ont vu, puisque.
Qui sont derrière le but.
C'est ça.
Qui sont en l'air.
Parce que, en plus, ça se passe loin de l'action,
oui,
puisque
mes collègues,
Mbappé a filé.
Voilà.
Avec
mes
le ballon.
Mes collègues, ils sont sur l'action.
Ils sont sur le ballon.
Ils sont sur le ballon.
Oui, c'est une contre-attaque.
Ils me regardent pas.
Bien sûr.
Autant, je pense que toutes les Africaines auraient pu me regarder, mais là, c'était pas le cas. Mais là, ils avaient pas les yeux sur moi. Donc, mes assistants, je suis pas leur modèle. Donc, ils regardent le ballon. Ils sont dans le match. Et c'est normal d'être concentré, non pas sur moi, mais sur le jeu.
Ouais.
Et c'est pour ça que, ils sont surpris. Et en fait, il y a qu'à la fin du match, quand on est dans le vestiaire, ils me disent, mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Donc, il y a une énorme surprise. Et puis, il y a une déflagration quand on va voir les images. Parce que là, on est loin. Enfin, on est loin de ce qu'on a imaginé sur le terrain.
Ouais, vous écrivez dans le livre, j'ai pris conscience de l'absurdité de mon attitude. Mmh. Alors, les réactions, évidemment, elles tombent en avalanche. Dès la fin du match, il y avait Valdemarquita, le président du Football Club de Nantes, qui tenait ces quelques mots.
Écoutez, c'est un gag. Voilà, c'est un gag. J'ai reçu, je pense, 20 SMS de le monde entier, de l'Allemagne, de la Suisse, de pays de l'Est, de l'Espagne, en disant c'est un arbitre gag. Voilà, c'est quand même scandaleux de voir ça. On donne un carton rouge à un joueur qui n'est pour rien. On ne sait pas où on est là. Il faut faire une école de l'arbitrage privé. Non, mais si j'apprends, il doit se reposer, il doit se faire masser. Et puis après, on peut le voir. C'est comme ça que ça marche maintenant.
Vous le trouvez comment, là, cette réaction? Vous la trouvez comment avec le recul? Là, ça vous fait rire, mais...
En fait,
il est allé trop loin?
Non, elle est dans l'esprit de tout ce qui s'est passé.
Mm-hmm.
Et lui, il participe en gros à l'invadicte populaire, donc il est dans ce que j'ai entendu par la suite. Il y a eu un déchaînement médiatique... comment dire? Impensable. Et avec le recul, je me dis, mais... sur un terrain de football, il s'est passé des choses très graves. Tout au long de ma carrière, j'en ai vu des choses qui étaient terribles. Et là, je comprends que ça a pu choquer. Voilà. Mais après, je rappelle quand même que je n'ai blessé personne, que le joueur a à peine senti que je l'avais touché, et que il faut relativiser les choses. Et là, il y en a pas eu. Il y a eu personne pour dire, attendez, reprenons un peu de distance par rapport à l'événement. Est-ce que c'est si grave? Alors évidemment, je vais pas minimiser, hein, parce que c'est pas un comportement qu'on doit tolérer. Mais est-ce que c'était si grave? Est-ce que ça nécessitait un tel déferlement, un tel déchaînement? Parce que ce que vous voyez peut-être pas, c'est la haine que j'ai ressentie et cette.
Oui, vous parlez de harcèlement. Hein, ouais. C'est allé très loin.
Oui, c'était du harcèlement. Au-delà du média, mais bon, moi j'utilise pas les réseaux sociaux, mais on en a beaucoup parlé. Et ça a été très difficile à vivre, parce que humainement, parce qu'on est seul aussi. Autant dans un club, vous avez des dirigeants qui vous encadrent, qui vous protègent. Vous avez un entraîneur, vous avez des coéquipiers. Là, moi dans la semaine, quand je vais m'entraîner, parce que je continue à m'entraîner, je suis seul, je pars avec mes affaires et je m'en vais courir tout seul. Et je n'ai personne qui vient là pour me dire, bon allez, on est là pour te soutenir.
Même chez vos responsables hiérarchiques, il n'y a personne qui vous ait soutenu?
Aucun.
Et vous pensez que si vous n'aviez pas été Tony Chaperon, mais un autre arbitre peut-être moins polémique, vous auriez eu le même traitement?
Là, ça a été l'occasion pour beaucoup de régler des comptes. Donc... évidemment ma personnalité et puis le fait que quand même il faut quand même préciser que ça faisait 14 ans que j'étais là, donc j'ai eu le temps aussi de me faire connaître. Alors peut-être parfois pas pour les bonnes raisons, mais j'ai une réputation, j'ai un nom parce que je suis vieux. Au sens, ça fait un petit moment que je suis là, je suis ancré un peu dans le paysage du football français. Et pour beaucoup, oui, je suis l'incarnation aussi de l'arbitre. Et donc c'est l'occasion de se payer un arbitre, parce que autant on peut se payer l'arbitre sur des erreurs, autant là on tient vraiment quelque chose de sensationnel pour taper sur un arbitre.
Alors vous avez été suspendu pendant plusieurs mois, hein, c'est la décision qui a été prise, et en fait vous nous expliquez que la décision de prendre votre retraite avait déjà été prise, vous l'aviez déjà prise avant cet épisode.
Bah, en fait j'avais pris plusieurs décisions, j'avais commencé à écrire le livre déjà. J'ai commencé au mois d'août 2017, et puis en même temps que je signe le contrat avec les éditions Artaud, j'annonce à la direction de l'arbitrage que j'arrêterai à la fin de la saison. Donc tout ça est très clair dans ma tête, je sais que je vais terminer. Je sais pas que je vais terminer le 14 janvier.
Xavier ?
Oui, moi je voulais revenir presque sur l'intervention précédente de Tony Chaperon, c'est-à-dire quand on a eu vraiment le sentiment qu'il était complètement lâché par toute la hiérarchie, comment expliquer que dans ce monde de l'arbitrage, il y ait tant de rivalité ? Est-ce que c'est lié simplement au fait qu'on veut être numéro un pour être ensuite arbitre international et aller à la Coupe du Monde ?
Bah moi j'ose espérer qu'on en reste à cette logique-là, c'est-à-dire une logique compétitive. Il est normal qu'entre sportifs, on soit en compétition. Le seul truc, c'est que là, les arbitres, comme on est toujours isolés et qu'on a, devrait y avoir un esprit de corps en fait. Et on aimerait ça parce qu'il y a le côté un peu, comment dire, c'est un peu un sacerdoce être arbitre. Et on se dit bon, bah, chacun est solidaire l'un de l'autre. Et finalement, non.
On va y revenir hein, sur ce manque de solidarité que vous déplorez, j'ai envie de dire, presque tout au long de votre livre. Hein. Mais on laisse de côté le pire match de votre carrière, hein, je crois que vous êtes d'accord, pour aborder le dernier, oui, aussi, c'était il y a quasiment 10 mois, jour pour jour. Hein. Pour revenir un peu plus tard sur les autres thèmes de ce livre, mais d'abord on va aborder maintenant l'actualité de cette fin de semaine, et d'abord la Ligue des Nations.
Il n'est pas sorti ce ballon. Oh la feinte, la frappe enchaînée, l'arrêt de derrière, ça revient dans les pieds. Oh le but du 3-2 dans le temps additionnel. Tignet Vang, le doublé et peut-être le but de la victoire pour la Croatie.
C'était effectivement le but de la victoire pour la Croatie, but dans le temps additionnel, et la Croatie bat l'Espagne 3-2. Marc, c'est une jolie réaction. D'abord le match. C'était un vrai match. On dénigre encore pour certains la Ligue des Nations. Là, on a eu un vrai match de coupe.
Disons qu'on peut pas la dénigrer, comme la Croatie qui est quand même finaliste de la Coupe du Monde face à l'Espagne, que la Croatie que tout le monde veut faire tomber. Donc la plupart du temps, le tout petit a toujours l'avantage sur le gros, parce que cette Ligue des Nations, alors le groupe de la France est sympa, il y a l'Allemagne, il y a les Pays-Bas, mais il y a d'autres nations où il y a peut-être un gros et des petits. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Avant c'était, on faisait des matchs amicaux ou un match amical face à une équipe, et aujourd'hui on veut faire tomber le gros. Mais là hier soir, l'Espagne n'a pas été dans un grand soir, et les Croates ont su faire en seconde période à mettre l'intensité nécessaire pour aller chercher cette victoire et pour l'arracher, pour avoir toujours un espoir. Mais ça va être de plus en plus difficile pour les nations comme l'Espagne, comme la France, ou si l'Allemagne, on prend l'exemple que l'Allemagne va redescendre en Ligue 2, enfin, session 2, Ligue 2 de cette Ligue nation, ou Ligue B, puisqu'on entend tout, et on sait pas, ça va être très compliqué pour ces équipes-là, parce que les équipes qui vont monter ou qui vont accéder à ce genre de match, finalement, il y a quelque chose à gagner au bout. Donc, ces Croates-là, qu'on n'avait pas vu forcément depuis cette Coupe du Monde, qui était... Ils sont toujours là, ils sont présents.
Mais si, Marc, on les avait vus à Madrid prendre 6-0 contre l'Espagne.
Oui,
et là, hier, ils ont réagi magnifiquement. Moi, j'ai adoré ce match, j'ai vraiment passé un très très bon moment.
Seconde période,
c'était du très bon football. On a eu une opposition de style parce que les Croates, justement, étaient un peu plus sur la défensive et sur la contre-attaque. Ils ont su très bien exploiter les faiblesses de la défense espagnole, notamment avec Rebic et puis Kramaric qui vont très très vite en phase de contre. Je pensais que moi, effectivement, cette équipe croate allait descendre en Ligue B comme le sont déjà condamnés l'Islande et la Pologne. Elle peut encore descendre, mais elle peut aussi se maintenir.
Tout est possible dans ce groupe.
Oui, parce qu'il y a l'Espagne à 6 points, mais elle n'a plus de match.
Elle a plus de match.
Et les deux autres, Angleterre et Croatie, vont donc jouer une véritable finale.
4 points.
Voilà. ils peuvent se qualifier, ils peuvent descendre et ils peuvent se maintenir. Donc c'est quand même assez assez exceptionnel. Finalement, cette compétition qui était pas très bien née, moi je trouve qu'elle est très intéressante parce qu'elle est en plus intéressante à tous les étages, puisque comme elle met face à face des équipes d'à peu près le même niveau, et ben on se retrouve avec des enjeux pratiquement dans tous les matchs de ces de cette dernière semaine.
Oui, moi, je trouve que c'est vraiment une belle compétition à ceci près que cette histoire de repêchage pour l'Euro est un peu bizarre dans la mesure où les éliminatoires de l'Euro n'ont même pas commencé,
ouais, le final
et on a du mal à comprendre la logique de ce, oh ben, ce système.
C'est un peu le point faible de la compétition.
Ils gagnent en Angleterre, c'est ça.
Alors les Croates, oui, il faut qu'ils gagnent
en Angleterre dimanche.
Il faut que les Anglais ou les Croates, il faut qu'ils gagnent.
Voilà.
Sinon, c'est les Espagnols qui vont aller au Final Four.
Voilà. En fait, les Croates, ils sont condamnés à gagner, mm-hmm. et auquel cas, ils sont premiers.
Oui.
Sinon, ils sont rétrogradés.
Non, voilà. Ils sont premiers s'ils gagnent.
S'ils perdent, ils sont rétrogradés, même s'ils font match nul.
Ils peuvent terminer deuxième et donc ne pas
si
être rétrogradés.
Match nul, ça dépendra du score parce qu'ils seraient à égalité des points avec l'Angleterre.
Ah oui, avec l'Angleterre.
Et donc, voilà. Il y aurait la différence de but particulière. Voilà.
Donc ça va être un
c'est des groupes à trois.
Non, mais il y a des.
Rémi Gonneau, est-ce que vous avez vibré hier soir? Est-ce que vous avez retrouvé la Croatie version mondiale 2018 qu'on avait un peu perdu de vue là sur ces dernières sorties?
Arrêtez de dire la Croatie et tout ça. Il faut se dire que l'équipe d'Espagne, c'est un football déjà désuet. Et même comme Xavier Barré voulait se baser sur un match amical qui était sans le moindre intérêt où ils ont pris 6, moi je dis. Je n'ai pas vu un grand match de l'équipe d'Espagne depuis 2014. J'ai dit bien, depuis 2014. Ils ont pris quand même 5 contre les Pays-Bas. Ils avaient pris 2 contre le Chili. Et puis, ils sont venus à l'Euro. On a vu comment est-ce qu'ils ont souffert.
Ils ont gagné quelques matchs, hein, au milieu.
Mais attendez, attendez. Ils sont partis ici à l'Euro. J'ai vu comment est-ce que l'Italie les a maltraités. Bon, aujourd'hui, l'Espagne se limite à prendre l'auto minimise, c'est 2 buts. Or, j'ai dit bien que l'Espagne de Del Bosque,
contre la Croatie.
Attends, de Del Bosque, j'ai dit bien, quand on essaie de regarder le ratio, c'est une équipe qui ne prenait pas plus d'un but par match. Or là, on est quand même devant une équipe avec une équipe qui prend désespérément, qui prend beaucoup de buts. Mmh. Et on ne peut pas. Et c'est ce que je disais toujours à Xavier Barré qui disait, il aime le football léché où on fait 1006 passes, comme par exemple ils ont fait contre la Russie. Ils ont eu 1006 passes. Et la Russie avait eu combien? 161 passes. Donc, exactement le même nombre de passes que Sergio Ramos seul a eu à faire pendant un match. Mais la Russie les a battus. C'est pour ça que je dis que le football a changé. Vous qui dites que le football devrait être le tiki-taka, l'ancien Barça, non, ça ne tombe plus, ça ne donne plus. La preuve, c'est que la Croatie...
Pourtant, à l'époque de Del Bosque et tout ça, c'était justement le Barcelone qui était la base de l'équipe.
Je vais te dire, Del Bosque, c'était quoi? C'était une possession de 55%. 55%, ce n'était pas le tiki-taka. Deuxième des choses. Del Bosque, c'était avec, bien sûr, ce qu'on pouvait dire, une clé de voûte qui permettait à la défense de se couvrir. La preuve, c'est que l'Espagne, même en 2010, gagne la Coupe du Monde en encaissant presque un seul but et en n'inscrivant que 8 en 5 matchs. C'est
Rémi Gonneau, tu préfères un match où une équipe gagne 1-0 ou un match où une équipe gagne 3-2 ou 4-3?
Je préfère une équipe qui me remporte une Coupe du Monde, qui me remporte l'Euro, qu'une équipe qui se fait toujours battre 3-2, 5-1, 3-0, et tout. Non, Xavier Barré, revenons à la réalité. La Croatie a battu l'Espagne.
Et tu vas voir une chose, c'est que aussi bien il va y avoir 0-0 à Wembley dimanche entre la Croatie et l'Angleterre, et c'est l'Espagne qui sera au final fort.
Attends, je t'ai dit bien que la Croatie avait 30% de possession, et la Croatie réussit à gagner le match. Comme tu accuses souvent Mourinho que non, il ne fait pas le jeu. C'est pour ça que tu tombes dans ce jeu. Tu apprécies la Croatie.
Non, j'ai apprécié le match. Tu n'as pas écouté ce que j'ai dit. C'est habituel avec toi. Tu déformes toujours ce que je dis.
Écoute, tu as apprécié quel match? Puisque le match, c'est quoi?
On va passer les bombes.
Attendez.
Monsieur
Chapon peut intervenir, sortir les cartons.
Est-ce que c'est plus possible? Il faut faire quelque chose.
Là, il faut faire quelque chose.
Bon, alors, rendez-vous donc pour cette Angleterre-Croatie à Wembley dimanche qui donnera
super intéressant
le verdict de ce groupe. L'Angleterre, pour préparer ça, a battu les États-Unis à Wembley déjà 3-0 hier, et c'était les adieux d'un certain Wayne Rooney. Voilà, Wayne Rooney, petit pincement au cœur, Marc? de le voir partir. Bon, c'était sa 120e, on sait, on en a parlé il y a deux jours dans l'émission. C'était
Non, mais je trouve que c'est très bien ce qu'ils ont été capables de faire, c'est très très bien de rendre hommage. Après, ils ont été voilà, l'Angleterre est très bien, ils ont une nouvelle génération, ça fonctionne plutôt bien. Mais là, on attend de voir la suite.
Alors pour cette soirée d'hier, on a aussi suivi un Belgique-Islande avec un joueur qui s'est bien mis en évidence.
Reden, est-ce qu'il peut accélérer comme cela? C'est difficile.
Elle est belle, elle est belle.
Avec un assist de Thomas Meunier à la 65e minute de jeu. Oh, bien joué de Thorgan Hazard, il est passé avec la vitesse. Le centre maintenant, le tir. Oh, c'était bien joué.
Et oui,
le but de Michy Batshuayi, deuxième but.
Et l'efficacité de Michy.
Eh oui, ça va pas très fort avec Valence, mais Michy Batshuayi, apparemment, quand il est en sélection, ça va mieux.
Ouais, c'est vrai, c'est intéressant. Et en tout cas, on voit que la Belgique est quasiment qualifiée.
Ballotage très favorable.
La France est très bien placée. On voit que la Croatie ou l'Angleterre peuvent se qualifier également. Donc on retrouve pratiquement le même carré final qu'à la Coupe du Monde. Bon, exactement. On ne pourra pas le retrouver totalement parce que la Belgique, et la Croatie et l'Angleterre sont dans le même groupe. Mais bon, c'est quand même, ça reflète quand même qu'il y a une sorte de cohérence entre la Coupe du Monde et cette nouvelle compétition.
Il faut rappeler une chose, c'est que c'est les 12 premiers qui font partie de l'élite de cette Ligue des Nations, en fait, répartis en 4 groupes de 3, ce sont les 12 premiers du classement FIFA avant la Coupe du Monde. Et donc, à part l'Islande et la Pologne, qui effectivement ont été éliminés au premier tour et qui sont déjà relégués, les autres sont tous à peu près à leur niveau.
Voilà, et puis il y aura également ce samedi un autre rendez-vous intéressant, c'est Portugal-Italie qui décidera de l'issue de cette Ligue des Nations.
Et du pays organisateur. Et puisque pays organisateur. Les trois candidats à l'organisation étaient dans le même groupe, la Pologne, donc qui est déjà éliminée, le Portugal et l'Italie. Donc en fonction du qualifié, on saura si on va au Portugal ou si on va en Italie. Je dis on parce qu'on peut imaginer que l'équipe de France sera qualifiée. Mmh. Donc ce sera en juin prochain.
Alors on va revenir, on va entrer maintenant un peu plus dans votre livre, Tony Chaperon. Vous y allez fort contre les dirigeants de l'arbitrage, contre le système de l'arbitrage. Au fil des pages, vous parlez d'un système soviétique, de comportement moutonnier imposé aux arbitres. Vous dites que c'est un système qui étouffe les personnalités, c'est une particularité française, selon vous ?
Bah en tout cas, c'est celui que je connais le mieux, c'est ce système franco-français, et qui montre ses limites dans les grandes compétitions internationales, puisqu'on n'est plus représenté... alors, en 2014, on n'y avait pas d'arbitre à la Coupe du Monde, mais...
Pas d'arbitre français. En 2018, il y avait Clément Turpin.
Mais en fait, on constate que depuis 1998... Ouais. Il n'y a plus d'arbitre français au-delà des matchs de poule. Donc ça veut dire que, ben, imaginons l'équipe de France qui serait éliminée à chaque fois qu'elle participait à une compétition internationale, elle serait éliminée dès le premier tour. Ben, pour les arbitres français, c'est ce qui se passe. Ils sont éliminés dès le premier tour.
Mais vous pensez que c'est un problème des caractères ou des compétences techniques?
Je crois d'abord qu'il faut quand même préciser un truc, c'est que les arbitres français sont très bons.
Très
bons. Attention.
Exceptionnel. Alors, je viens de découvrir quelque chose. Allez-y un peu. Expliquez-moi.
Je vais terminer. ils sont très bons dans le championnat français. En revanche, au niveau international, ça coince. Parce que pour franchir les paliers, il faut quelque chose d'autre. Et si vous regardez les grands arbitres qui ont officié lors des grandes compétitions internationales, vous prenez l'Euro, on pourrait parler de la CAN, mais on pourrait, enfin, parlons aussi de la Coupe du Monde. Et à chaque fois, ce sont des grands personnages. Il dégage quelque chose d'autre. Prenez Howard Webb, vous prenez Mark Lattenberg pour les Anglais, mais vous prenez aussi Pierluigi Collina, vous prenez
Pitana.
Voilà, ils ont un caractère différent.
Charisme.
Ils ont un charisme, et c'est parce que aussi, au sein de l'institution, on a reconnu leurs différences. Et on se dit, ben, ceux-là, peut-être qu'ils sont un peu plus difficiles à gérer, mais une fois sur le terrain, ils ont le respect des joueurs. Parce qu'ils ont un charisme naturel et parce qu'aussi ils osent s'affirmer. En France, celui qui a l'outrecuidance d'avoir un avis divergent, en fait, est mis au banc. Alors c'est un jeu de mots facile, mais il est mis au banc. Il est sur la touche parce qu'on veut pas de personnes qui viennent émettre un avis contraire ou même émettre des propositions. Donc c'est ça qui est problématique dans le système français.
Alors donnez-nous un exemple que vous avez vécu, vous, de ce genre de traitement quand vous avez voulu sortir du rang.
Typiquement, moi j'ai créé le syndicat des arbitres de football français et quand je l'ai mis en place, ça a été quand même le début de mes problèmes. C'est-à-dire que là, je suis devenu une sorte de mouton noir. On se dit, mais qu'est-ce qu'il revendique ? Moi, je revendiquais juste le respect des arbitres, des meilleures conditions de travail. Et quand j'ai développé ces idées, bon, ça a amené un certain mouvement, des mouvements de grève, etc. Mais et puis j'ai eu le malheur un jour de dire que les dirigeants de la fédération étaient incompétents en matière d'arbitrage.
C'était Marc Batta à l'époque, le directeur de l'arbitrage.
Oui, mais le problème, c'est que c'était pas lui que je visais en particulier. Ah oui. Je visais les dirigeants dans leur globalité. Et je pensais notamment au président de la fédération de l'époque. Et bon, ça m'a valu
du Chaussois.
Voilà, ça m'a valu 3 mois de suspension parce que à l'époque, j'étais secrétaire du syndicat, donc j'avais le droit d'avoir une pensée libre de syndicaliste. Mais visiblement, dans le football, on n'en a pas le droit d'avoir une pensée libre, et encore moins quand on est arbitre. Donc c'est pour ça que le titre du livre, c'est Enfin libre, parce que je peux enfin dire ce que je pense et avoir un avis qui m'est propre et puis pouvoir le partager avec quelqu'un. Parce que quand on est arbitre, il faut quand même savoir, c'est que parfois je suis intervenu devant mes camarades pour dire, bah non, moi je suis pas d'accord avec telle et telle disposition du règlement de l'arbitrage. Et mes camarades me prenaient à la sortie de l'amphithéâtre et me disaient, bon, arrête de poser des questions et arrête de défendre tout le monde parce que ça se retourne à chaque fois contre toi. Donc tais-toi.
Alors, les arbitres souffrent aussi, vous parliez du syndicat de l'arbitrage français, d'un certain manque de solidarité, enfin le plus souvent, même si ça vous est arrivé en 2006 d'obtenir des augmentations de rémunération en repoussant tous ensemble, ou presque, d'un quart d'heure le coup d'envoi des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2. Il y a quand même souvent au dernier moment quelqu'un qui craque.
Depuis 2006, il n'y a plus eu de mouvement de solidarité unanime. Il y a toujours un qui, à un moment donné, s'échappe. Et en fait, comme les autres se disent, si lui, il y va, il se défend tout seul, ben moi, je vais le suivre, parce que, puisque, en fait, c'est une compétition très individuelle. Donc, si je m'attire les bonnes grâces de mes dirigeants, je vais potentiellement faire des grands matchs, je vais potentiellement être maintenu en Ligue 1 ou être promu au niveau international. Donc tout un chacun défend, on va dire, son propre intérêt et ne pense jamais collectif. Et c'est le problème de l'arbitrage, c'est que dès lors qu'on veut faire un mouvement collectif, il faut que ce soit 100% des arbitres qui soient solidaires. Dès lors qu'il y en a un qui s'échappe, tous les autres s'engouffrent dans la brèche en se disant « Bon ben, je vais suivre cet exemple-là » parce que lui, se mettant au banc du collectif, en revanche, il s'attire les bonnes grâces de nos dirigeants. Et c'est pas un hasard si aujourd'hui, et c'est pour ça que je les cite, mais c'est pas pour personnaliser, mais c'est quand je cite deux noms de personnes qui, au cours de ces dernières années, ont cassé des mouvements de solidarité, en fait, ces deux arbitres sont aujourd'hui le numéro 1 et le numéro 2. Il n'y a pas de hasard.
Oui, mais d'un autre côté... Vous êtes finalement aussi un peu populaire dans l'arbitrage, puisque vous avez été élu, en tout cas c'est vous qui le dites, meilleur arbitre de la saison dernière.
C'est pas moi qui le dis, c'est le résultat du vote.
Auriez dû recevoir le trophée UNFP du meilleur arbitre. Ouais. Et vous ne l'avez pas reçu.
Il n'y a pas eu un peu de provocation dans ce vote.
Ouais. Il faudrait demander à mes collègues. Alors, je vais répondre à votre question. Le côté un peu populaire, c'est vrai que mes collègues, ils ont vu que tout au long de ma carrière, j'ai essayé de défendre l'intérêt collectif. Et ça s'est fait souvent au détriment de ma carrière, contrairement à d'autres qui, eux, ont pensé toujours individuel. Et ça, c'est un trait de ma personnalité, je pense toujours au collectif. Et là, en l'occurrence, mes collègues, quand ils votent pour moi, je crois qu'ils se souviennent de tout ce que j'ai fait pour eux. Donc c'est une sorte, on va dire, de trophée d'honneur aussi. Et vraisemblablement, il y avait aussi une pointe
de provocation à l'égard de la hiérarchie.
Mais, oui, mais alors, en fait, c'est assez récurrent parce que cette année, c'était moi, mais les années précédentes, ça n'a jamais été le numéro un officiel, celui que la...
C'était en tête des classements.
C'est-à-dire qu'il y a un classement officiel de la DTA, de la Direction Technique de l'Arbitrage, et en fait, tous les arbitres tous les ans, votent pour quelqu'un d'autre. Donc c'est qu'il y a un problème, il y a une défiance, c'est-à-dire que les arbitres savent comment ça fonctionne en interne et se disent, c'est pas juste que ce soit lui le numéro un officiel, alors que l'autre est meilleur.
Mais justement, Tony, est-ce que c'est justement pas à cause de la politique que l'arbitrage français est friable ou fragile? Parce que dans la plupart, enfin, je connais pas tous les pays, mais c'est vrai qu'en Italie, quand on se retrouve avec le fameux
Collina,
mmh. tout le monde admet que c'est le meilleur entraîneur, le meilleur arbitre du monde. Il est maintenant à la FIFA, il a été à l'UEFA entre temps. Donc il y a une logique. Quand la DTA a été incarnée à l'époque par Marc Batta, qui était un arbitre très moyen, on comprend qu'il y avait une forme de défi en permanence d'arbitres qui pouvaient estimer qu'ils étaient meilleurs que lui.
Non. Alors en fait, non, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que Marc Batta, ça a été un personnage très respecté des arbitres. Parce qu'il avait une carrière, c'était le dernier à avoir franchi le premier tour en 98, puisque c'était organisé en France, et il avait arbitré un huitième de finale entre le Brésil et le Chili.
Et alors qu'il Marc avait exclu Rui Costa du fameux Portugal-Allemagne.
Mais il avait été qualifié pour la phase finale de la Coupe du Monde, et il avait une crédibilité auprès des arbitres, de par sa carrière. Ce qui n'est pas le cas d'aujourd'hui de Pascal Garibian, qui a eu une carrière médiocre au niveau international. Donc, d'ailleurs, je parle dans le livre, c'est-à-dire que quand je fais un match international et qu'on me demande qui est le directeur de l'arbitrage français, je donne son nom à mon interlocuteur étranger, il sait pas qui c'est. Ouais. Il a aucune crédibilité au niveau international. Mais on pêche aussi pour ça. C'est-à-dire que quand moi je parle avec des collègues étrangers, avec un Italien, qui est au directeur, il me dit Pierluigi Collina ou Claudio Rossetti, ou alors un Anglais, on me dit c'est David Alray, c'est des personnages qui sont importants. Voilà, donc quand on est français et qu'on donne le nom de son directeur, bah déjà on a perdu un peu de crédit. Donc c'est ça qui est problématique.
Vous avez parlé de l'Angleterre, et ben on va y aller, toujours pour parler de l'arbitrage. Oui, filme les actions et c'est évidemment l'arbitrage, l'assistance vidéo à l'arbitrage. Alors pourquoi? Eh bien parce que la Première Ligue vient d'annoncer que elle aussi allait s'y mettre. Ça a un côté inéluctable. Finalement, c'est le dernier grand championnat européen à s'y mettre. Et maintenant, c'est unanimité, Marc Libra.
C'est très bien, ça va éviter 95% des erreurs. Après, ça restera toujours l'appréciation de l'arbitre ou des personnes qui sont dans le bus ou dans le car. Mais je pense que c'est une très bonne chose. J'étais pas forcément pour au départ, mais il se passe quelque chose, qu'on le veuille ou non, quand il y a ces actions où on attend but, pas but, qu'est-ce qui se passe et tout, et puis les gens sont là, alors oui, non. Et puis souvent, il y a pas but, bon, ça calme, il y a plus de... Et puis s'il y a but, les gens crient quelques secondes après. Pour moi, ça a pas forcément... Ça a un peu changé le décor, mais je pense que c'est quand même très important d'avoir ce genre de choses, parce que voilà. Maintenant, j'attends de savoir sur un match à la 36e ou 37e journée où c'est le premier contre le deuxième et que ce qui va se passer à ce moment-là, les personnes qui seront dans le bus, c'est l'arbitre. C'est ça aussi que j'attends. Et puis après, il faudra m'expliquer quand un arbitre de touche lève, que quoi qu'il arrive, il sait qu'il va être déjugé quoi qu'il arrive aujourd'hui. Donc ça sert à quoi de mettre des... Vous voyez ? Donc on lui fait, tu fais que la touche, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'il arrive, on les déjuge.
Non, la plupart du temps, les arbitres n'ont pas tort et on confirme leur décision.
L'histoire par rapport à ce week-end où Zlatan marque, il a levé, il a pas levé. Bon, à l'arrivée, ça ne change rien pour lui, quoi. C'est ça qui est un peu bizarre, c'est qu'aujourd'hui, on les met de côté carrément. Et c'est pas évident du tout.
On les déjuge seulement s'il y a but. Et je crois que c'était ça le but, ce qu'a expliqué la FIFA avant la Coupe du Monde.
J'ai bien compris. Je trouve que c'est difficile pour les hommes qui sont sur le terrain, qui sont sur le côté, qui doivent faire ça. Tu vois, quand c'est bien, on dit pas, ah ben c'est bien la VAR. Non, c'est quand même, il a quand même vu. Et quand il voit pas, on dit, ah ben ouais, heureusement, parce qu'il avait rien vu. C'est ça, ce côté-là. C'est ça qu'il faut tourner dans l'autre sens. Parce qu'il faut que ça aide. Et il faut pas que ça dénature, quoi. Parce que la plupart disent, ah ben il sert plus à rien aujourd'hui.
Est-ce que je peux vous éclairer sur le
Mais bien sûr.
Sur le process.
Et on attend votre avis. Vous dites dans le livre, c'est consensus général, c'est un côté inéluctable. Bon, la prochaine étape, ça sera la Ligue des Champions d'ailleurs, mais il n'y a plus d'opposants.
Sauf moi, mais bon, c'est pour un autre problème. Mais, mais en fait, j'explique. Marc, je vois à quoi vous faites référence. Il se trouve que l'arbitre assistant, quand il lève son drapeau, on se dit, mais en fait, il lève pour refuser le but. En fait, pas du tout. L'arbitre assistant laisse l'action se dérouler et quand il y a le but, là, il lève son drapeau.
C'est ça que je comprends pas.
Et si, en fait, il faut.
Ouais, mais
en fait, je vais vous expliquer pourquoi.
Donc, il doit réfléchir doublement.
Mais non, mais si il arrête les jeux, non, l'action est avancée.
Il dit, je vais. Ouais, mais... Il dit, je vais au bout de l'action.
Ça me fait bizarre.
Si ça fait but, je demande le contrôle en levant mon drapeau. Ça veut dire, je demande le contrôle.
Ouais, non.
Et en fait, on, dans l'esprit des gens, du grand public, on se dit, bah, en fait, non, il s'est trompé, il n'y avait pas hors-jeu. En fait, non. Lui, il dit, j'ai un doute. On a le droit d'avoir un doute, parce que c'était tellement difficile de juger le hors-jeu. Que l'arbitre, non. Là, dans cette situation-là, il se dit, j'ai un doute, mais je laisse aller au bout. Parce que si ça fait but, on va pouvoir corriger si je me suis trompé. Plutôt que de lever avec un doute et de se dire, à la fin du match, ah ben non, mince, je m'étais trompé. Alors là, c'est différent. La stratégie de l'arbitre assistant, c'est de se dire, je laisse aller au bout, ça fait but, et je sais que j'ai ma bouée de secours. Donc, je lève
mon
drapeau.
Ça change pour eux. Ils doivent arbitrer différemment aujourd'hui.
Bien sûr.
Ah ouais, c'est difficile.
Donc ça, c'est très difficile parce que c'est une nouvelle gymnastique.
Ah, c'est clair.
Et je vais aller plus loin parce que si on laisse faire ça, c'est-à-dire que maintenant, les arbitres, ils lèvent plus leur drapeau, ils laissent aller au bout.
Non, ils lèvent les drapeaux quand ils sont sûrs, quand même.
Quand ils sont sûrs. Quand c'est très évident.
Ouais. C'est-à-dire mais, que mais des fois, c'est tellement évident qu'ils ils lèvent pas, donc on ne sait pas.
Et non, alors, mais... ça pose un autre problème parce que, et c'est là où parfois je mets un peu le doigt où ça fait mal, c'est-à-dire que, ok. Le collègue arbitre laisse le ballon. Il a un doute sur leur jeu. Bon, il laisse faire et puis le but n'est pas marqué. Donc ça va en corner. On n'utilise pas la vidéo pour vérifier le corner, d'accord ?
Non.
Sur le corner, il y a but. On n'utilise pas la vidéo parce que c'est une deuxième action. Donc ça pose un problème déjà. C'est-à-dire que comment on utilise la vidéo ? Est-ce qu'on attend qu'il y ait le corner ou est-ce qu'on vérifie pour le corner ? Mais sauf que là, on vérifie uniquement en cas de but. Donc on n'a pas une justice parfaite et ça, la vidéo ne résout pas tout.
Non, mais ils ont, je crois que la FIFA a posé les jalons, a posé les barrières. Il y a 4 cas précis dans lesquels on utilise la vidéo. Exactement. Sinon on passerait son temps à vérifier les actions.
Les cas sont bien répertoriés.
Ouais. Ils sont rappelés d'ailleurs sur les écrans géants des matchs dans les stades de Ligue 1.
Oui,
avant
il n'y a pas d'écran géant. Ouais.
Rémi, moi, d'ailleurs, je trouve que c'est une magnifique chose. C'est comme si vous me demandez de continuer à utiliser l'ancien téléphone que j'avais, alors que aujourd'hui on a évolué. C'est comme si vous continuez à me demander de monter dans des trains à charbon qui allaient 1 km/h, alors qu'il y a déjà autre chose. La technologie a évolué. D'ailleurs, dans son interview au Parisien du 22 novembre 2016, il y avait déjà, oui, ça, je donne toujours des précisions, et il y avait déjà, Gianni Infantino avait déjà dit, nous, avant d'y arriver, on avait eu le temps de travailler. Et il a d'ailleurs dit que même quand il n'était pas encore un dirigeant, il travaillait déjà avec des grands noms du football tels que Van Basten et Boban pour essayer de voir en quoi est-ce que l'assistance vidéo était utile, et il s'est rendu compte que effectivement ça corrigeait les erreurs à 95%. S'il y avait l'assistance vidéo, on ne serait pas à ce qu'on va appeler la main de Dieu de Diego Maradona. Tout le monde aurait vu. S'il y avait l'assistance vidéo, on aurait voilà.
J'en donc ai fait aujourd'hui, un bouquin, tu sais.
Aujourd'hui, quand on dit oui, ça va changer la façon d'arbitrer, comme le dit Marc Libra, mais ça toujours, et les arbitres se sont toujours comportés de plusieurs différentes façons. Quand l'arbitrage commence, des refs, mais il était où? Dans les tribunes. Il n'était même pas au stade. Et même le trio arbitral, ça ne va arriver qu'après. Donc, progressivement, on essaie d'améliorer. C'est quoi? Aucune œuvre humaine n'est parfaite, dit Shakespeare. Non, c'est-à-dire que nous cherchons à les parfaire, sinon à les refaire. Donc, aujourd'hui, je trouve que l'arbitrage vidéo, selon ce que je suis en train de voir par rapport à la lenteur de l'être humain, par rapport à certaines erreurs qui, sur le plan visuel, immédiatement peuvent vous tromper, par rapport à la déconcentration, lorsque je vois Tony Chaperon nous expliquer ça, je ne peux dire que c'est une chose magnifique. Allons-y, ne continuons pas à défendre Xavier Barré qui continue à croire qu'il doit faire Lyon-Paris à bicyclette pour sauver la nature. Non, allons en TGV.
Ça, c'est ça, ça j'avais pas entendu, c'est même pas un proverbe africain, je vois pas ce que ça vient faire.
Ouais,
mais
c'est
bon.
Trop blanc. Bah non, je vais revenir sur les statistiques parce que Gianni Infantino, parce que déjà il était secrétaire de Michel Platini, donc il a eu du mal à développer la vidéo quand il était là. Ensuite, avant la Coupe du Monde, il y a des statistiques qui sortent. Gianni Infantino dit les décisions des arbitres sont justes à 93% sans vidéo, elles sont améliorées à 97%, donc on passe Donc on a corrigé 4% des erreurs grâce à la vidéo.
C'est beaucoup.
4% d'erreurs. Sachant qu'un arbitre prend une décision toutes les 30 secondes. Donc si vous imaginez voilà, sur un match qui va durer presque 90 minutes...
Oui, mais sur la vidéo, c'est des actions de but ou des actions très, très importantes.
Voilà, l'utilisation de la vidéo se fait que dans 4 cas. Donc voilà, cette correction, elle est... il faut bien resituer les chiffres. Parce que, par contre, restons quand même sérieux et sereins par rapport à ce débat sur la vidéo. C'est-à-dire que ça n'enlève rien au fait que tout est interprétation. C'est-à-dire que si on se met tous ensemble ici dans ce studio et on regarde un match de football, et je pense que sur certaines phases de jeu, même si on a les mêmes
images,
même au ralenti,
même
après ça, on aura toujours, enfin, il y aura toujours quelqu'un qui sera pas d'accord avec l'autre. Donc voilà, il faut laisser cette part d'interprétation à l'arbitre et faire confiance en son honnêteté et puis à son ressenti.
Donc imagine par exemple que si on laisse cette interprétation à l'arbitre, comme vous êtes en train de le dire, au moment où vous étiez en train de tacler, par exemple, le joueur, et que la commission elle-même ne peut pas visionner, ou vous-même, vous ne pouvez pas vous rendre compte que, mais peut-être qu'au moment où j'étais tombé, il y a eu l'action qui s'est poursuivie, et qu'il y a eu un but, vous ne serez pas lucide pour pouvoir le faire. C'est pour ça que je dis que, à une certaine période, l'outil informatique permet à l'être humain, c'est comme une assistance respiratoire. Vous dites, à quelqu'un, faisons confiance au médecin. Sauf qu'à une certaine période, il y aura des problèmes d'oxygénation, il y aura des problèmes aujourd'hui même. La robotique est utilisée pour l'opération de certains médecins. Donc, l'être humain, de plus en plus, est en train d'évoluer vers le perfectionnisme. Nous ne pouvons pas continuer à rester dans l'âge de la pierre taillée. Ou, par exemple, ma mère aimait... Bon, voilà. Donc, à une certaine période, évoluons. Et je crois que lorsque je vois ce qui se passe aujourd'hui avec l'arbitrage, eux aussi, ça aide les arbitres. Parce que l'arbitre n'est qu'un être humain. Et l'être humain, n'étant pas complètement toujours lucide, pouvant parfois avoir des égarements, parce que vous pouvez même sortir de chez vous ayant des petits problèmes avec madame, et puis et tout, quand vous arrivez, vous êtes déconcentré. Voilà une action qui arrive, vous étiez en train de penser à ce qui va se passer à la maison, et hop, vous perdez le fil des idées. Et quelque part, votre assistant vous rappelle quelque chose, et vous-même, vous êtes perdu, vous ne savez pas la décision qu'il faut prendre, vous dites, allez, vidéo. Voilà. Alors, pour moi,
ça
je
sent,
trouve...
Ça sent le côté autobiographique, votre... raconter les choses.
Non, mais ça, puisque vous parliez tout à l'heure de l'Afrique en rantaine, mais ça pose aussi une question. C'est la vidéo, on l'utilise où?
En
Europe, dans les championnats qui sont riches.
Pour le moment.
Ils ont commencé en Ligue d'Afrique.
Oui,
champion.
On a commencé en Afrique. C'est comme si toujours les gens croient que l'Afrique. Non, c'est parce que les dirigeants africains ne veulent pas que l'Afrique évolue. On regarde nos matières premières.
Elle a été utilisée sur la finale, la dernière finale de la Ligue des Champions.
De la Ligue des Champions. Et en même temps, c'est comme si vous dites que, bon, écoutez, comme il y a des nouvelles voitures qui sont arrivées en Europe, il ne faut pas rouler avec parce que ça ne va pas arriver en Afrique. Non. Aujourd'hui, les États africains font aussi un effort d'avoir le TGV alors qu'à l'époque il n'y en avait pas.
Mais ça concerne aussi la France hein, parce que en fait il y a 25 000 matchs qui sont joués chaque week-end, il y en a 10 qui utilisent la vidéo. Et puis je vais vous donner un petit scoop, c'est-à-dire que en fonction des matchs du championnat de Ligue 1, on n'a pas les mêmes outils pour juger.
Complètement.
C'est-à-dire que les matchs de Ligue 1 du 21h le dimanche soir, ils ont 25 caméras pour juger.
Et les gros matchs, c'est 38 à 40.
Et il faut société, il faut tirer vers le haut.
Ils n'ont que 7 pour les matchs de 20h du samedi. En gros, vous êtes Amiens, Angers, Caen, Toulouse, vous ne serez pas jugé avec les mêmes outils que Paris, Lyon. Et Marseille.
Il y a une différence de moyens. On va passer à notre rendez-vous parce qu'on est super en retard. Les cartons.
Carton jaune.
Dieu un carton là. Qui sort un carton jaune.
Ouh là 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 là. Carton rouge.
Carton rouge. Dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
Allez Tony Chaperon, on vous donne la parole parce que les cartons, ça vous connaît.
Ouais, et je vais commencer par un carton vert.
C'est, super, c'est vous êtes la première fois qu'un arbitre donne un carton en radio foot. Hein.
Ah oui, c'est vrai. Bon, je vais prendre un vert et puis je vais sortir du foot. Parce que je pense que ce sont peut-être des personnes qui nous écoutent, qui sont en mer. Je pense aux marins de la route du Rhum. Parce qu'on a parlé de ceux qui étaient arrivés, et puis je pense qu'il y en a qui sont encore sur les mers, et j'ai une pensée pour eux, ils sont tout seuls sur leur bateau, et je me dis peut-être qu'ils nous captent, peut-être qu'ils nous entendent, j'ai une pensée pour eux, c'est des sportifs extraordinaires, et qui n'ont pas une très forte notoriété ni une très forte exposition médiatique. Et voilà, moi je suis fasciné par ces gens qui consacrent leur vie à traverser les océans avec peu de moyens. Et voilà, je pense à ceux-là et je pense à ceux qui ne sont pas dans la lumière de ceux qui sont arrivés les premiers.
Oui, ils sont loin de Francis Joyon. Voilà,
exactement.
Et de François Gabart. Marc Libra.
Wayne Rooney.
Aïe.
Mais pas pour lui.
Quelle couleur ?
Non, mais c'est un carton, le plus beau des cartons. Parce que j'aimerais bien qu'un jour la France puisse permettre de faire ce genre de choses, puisqu'on savait qu'il a fait une retraite, et on veut lui rendre honneur. Je trouvais ça très très bien. Je trouve que c'est des choses qu'on devrait mettre en France en place. Et je trouvais ça vraiment très classe. Voilà, c'est tout. Pour service rendu, meilleur buteur de tous les temps, je crois 53 buts. Mais on va lui faire 120 sélections, je crois qu'il mérite, on va le faire rentrer, il va jouer. Mmh. Et j'ai trouvé ça, je me suis dit, bon ben... Et nous, des fois, on oublie certains joueurs, nous, dans notre pays, on les calcule pas, et après, on pleure parce que la plupart de nos joueurs sont recruteurs ou dirigeants dans d'autres pays.
Un exemple à suivre.
J'ai trouvé ça très bien à suivre.
Rémi.
Paul Lama de ma page Facebook Reming en officiel donne un carton rouge à la Fédération guinéenne de football qui, pour un match aussi important comme la rencontre Guinée-Côte d'Ivoire, eh bien, la Fédération annonce que, voilà, il n'y aura pas de spectateurs et tout, et puis, trois jours plus tard, la même Fédération vient dire que, bon, maintenant, on va faire, vous allez venir, vous serez, on va admettre des spectateurs. Donc, finalement, on ne sait pas ce qui est en train de se passer, les spectateurs ne savent pas s'il faut aller au stade et au-delà de ça, la Guinée avait bien besoin de ce public-là, mais malheureusement, la Fédération guinéenne de football, qui ne connaît jamais prendre des décisions, vient encore de prendre une mauvaise décision de l'indécision. Et comme le dit un proverbe africain, une flèche lancée ne revient jamais dans l'arc.
Xavier Barré. Ouais.
Eh bien, écoutez, moi, je voulais donner mon carton vert à Wayne Rooney, mais bon, ça a été fait par Marc Libra fort justement, donc je vais le donner à la, puisqu'on est en week-end de Ligue des Nations, à la Finlande, qui est un peu le parent pauvre du football scandinave et qui va monter en Ligue B lors de la prochaine Ligue des Nations, puisqu'ils ont terminé en tête du groupe C d'ores et déjà, et en particulier à son sélectionneur Markku Kanerva, qui a su trouver le bon discours pour mobiliser des joueurs qui depuis la nuit des temps étaient voués à jouer les utilités dans ces compétitions internationales en Europe, et qui maintenant trouvent enfin un peu de lumière pour monter d'un cran.
Alejandro.
Moi, je vais profiter de la présence de Tony Chaperon pour donner un carton vert à un arbitre, Roberto Tobar, arbitre chilien qui a officié lors du Super Classico Boca Juniors River Plate et qui s'est parfaitement acquitté de la tâche alors qu'on lui promettait l'enfer. Il n'a même pas eu recours à la VAR puisqu'il a pu arbitrer ses matchs parfaitement, avec autorité, avec de façon très adroite, et ça a montré quand même qu'il était possible, même dans des matchs quasiment impossibles, de bien faire son travail.
Et puis, pour terminer, mon carton à moi, c'est pour un arbitre britannique qui a arbitré un match de première division féminine en Angleterre. Il a oublié la pièce en arrivant, il a oublié la pièce au vestiaire, il s'en est rendu compte en arrivant, au moment de faire le toss. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait pierre-feuille-ciseau, autrement dit, Chifoumi. Le problème, c'est que ça a été filmé, ça a tourné en boucle, la Fédération britannique n'a pas trouvé ça drôle, et elle vient de le suspendre pour 3 semaines, donc on termine par un carton rouge qui manque d'humour là quand même, hein. Tony Chaperon, non ?
Mais t'es arrivé déjà d'arriver sans pièce.
Vous avez fait quoi ?
Qu'est-ce que je faisais ? Je cachais mon sifflet dans une main et je leur demandais dans quelle main il était.
C'est presque pareil. Merci beaucoup Tony Chaperon d'être venu pour ce livre que vous publiez aux éditions Artaud. Enfin libre, le résumé de 14 années de carrière. À lundi.